VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
17h à Nouakchott, 18h à Bangui, bienvenue à notre journal. Au Congo-Brazzaville, les bombardements à Soumouna, à une cinquantaine de kilomètres de Brazzaville, ont repris ce matin. Le fief du pasteur Tatantoumi, accusé d'être l'instigateur des attaques contre la capitale après la récente présidentielle, a été pilonné et incendié. Aucun bilan n'est disponible pour le moment. Des détails avec notre correspondant à Brazzaville, Nguela Ngoussou.
Tout est parti très vite ce matin à Soumouna, lorsqu'un groupe de militaires est allé fouiller le site du pasteur Ntoumi. D'après le porte-parole de l'ex-chef ninja, les soldats saccageaient tous les biens lorsqu'ils en ont été empêchés par les ninjas. Une altercation violente qui a mis en déroute les forces de l'ordre, perdant leur véhicule BJ brûlé par les ninjas. Les hélicoptères sont appelés à la rescousse et pilonnent tout le site du pasteur Ntoumi à Soumouna, qui finit par prendre feu. Certaines cases de paysans auraient également été incendiées. La circulation entre Brazzaville et Kinkala via Soumouna a été coupée et le contrôle à la barrière policière de Ngangalingolo, l'entrée sud de Brazzaville, renforcé. À Kinkala, le chef-lieu du département du Poul, d'où on pouvait écouter dans l'avant-midi le bruit assourdissant des bombardements, la vie a été au ralenti ce mercredi. Jusqu'à ce soir, aucun bilan de ces affrontements n'est encore disponible. Nguela Ngoussou, Brazzaville, VOA Afrique.
En République centrafricaine voisine, le nouveau gouvernement bientôt à pied d'œuvre. Les ministres ont commencé ce matin à prendre officiellement leurs fonctions à Bangui. Des précisions avec notre correspondant sur place, Freeman Sipila.
Plusieurs ministres ont été officiellement installés à la tête de leur département par des inspecteurs d'État. Le nouveau gouvernement entend rompre très rapidement avec les vieilles habitudes afin de passer à l'action. Une nouvelle équipe dit de technocrates, d'hommes intègres attendus au pied du mur pour faire face aux nombreux défis de reconstruction du pays après 3 années de chaos. À Bangui, la configuration de ce nouveau gouvernement est favorablement accueillie par presque toutes les couches sociopolitiques du pays. Des indiscrétions annoncent que le premier conseil des ministres de Faustin Archange Touadéra avec la nouvelle équipe pourrait se tenir ce jeudi au siège de la présidence centrafricaine. Le nouveau gouvernement centrafricain a été dévoilé lundi, 9 jours après la nomination du premier ministre Simplice Mathieu Sarandi. Freeman Sipila, Bangui, VOA Afrique.
Tchad, l'heureux représentant du Haut Commissariat de l'ONU pour les réfugiés installés dans le pays suit de près le référendum qui vient tout juste de se terminer aujourd'hui dans la région du Darfour au Soudan voisin. Motif, les nombreux habitants du Darfour qui ont cherché refuge en territoire tchadien. Le point avec notre correspondant N'Djamena André Kodmajingar.
Environ 300 000 réfugiés soudanais vivent sur le sol tchadien depuis 12 ans dans plusieurs camps situés à l'est du Tchad. En dehors de ce nombre pris en charge par l'OICR, il y a d'autres qui ne résident pas dans les camps. Ces réfugiés sont dans les zones semi-désertiques et dépendent entièrement de l'assistance humanitaire. Dans cette situation, l'OICR ne peut pas encourager la production comme dans le sud du Tchad avec les réfugiés centrafricains qui sont dans une zone écologiquement favorable à l'agriculture et aux activités génératrices de revenus. Pour le représentant du OICR au Tchad, de Josué Antonio Carandula, que ce référendum au Darfour puisse favoriser le retour des milliers de réfugiés dans leur pays d'origine.
C'est un référendum en premier lieu destiné à des questions politiques au niveau du Soudan. Donc c'est pour répondre à des préoccupations politiques qui ne sont pas nécessairement des questions liées à la situation particulière des réfugiés. Ça veut dire que c'est des situations humanitaires qui ne sont pas prises en compte dans le processus politique en cours. Nous observons seulement l'évolution de la situation pour voir quel serait l'impact de ce référendum sur la volonté ou non des populations réfugiées soudanaises au Tchad. Et ça nous intéresse parce qu'on a entendu parler de certains mouvements spontanés de retour, mais pour lesquels nous n'avons aucune preuve que ce soit des retours durables.
Le représentant du OICR au Tchad souligne par ailleurs qu'il faut passer de l'assistance humanitaire à l'autosuffisance alimentaire à travers les activités génératrices de revenus, mais aussi de trouver des solutions durables à tous les réfugiés vivant au Tchad.
Nous sommes devant un programme de longue durée. Et les intérêts des donateurs commencent à diminuer parce qu'il y a de nouvelles urgences. Le plus important défi, je pense, c'est du point de vue de trouver des solutions durables à ces situations de réfugiés. Quelle est en fait la solution durable? Il faut sortir de cette notion et de cette condition de réfugiés. Ce serait soit avoir un retour durable dans leur pays. Vous connaissez un peu la situation au Darfour, il y a encore les conflits. Et vous connaissez la situation en Centrafrique, le conflit est fini. Mais toujours est-il que les institutions de l'État ne sont pas encore étendues au nord de la Centrafrique, de là où ils viennent la majorité de nos réfugiés.
Selon le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, le Tchad est le quatrième pays au monde à accueillir plus de réfugiés sur son sol. André Koduma Djingar Ndjamena, La Voix de l'Amérique.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Afrique de l'Ouest maintenant, violence au Mali. Trois soldats français de la force Barkhane ont été tués mardi près de Tessalit dans l'extrême nord du pays par l'explosion d'une mine au passage de leur véhicule. Les précisions de Boubacar Touré, notre correspondant à Gao, point de départ du convoi des trois victimes.
L'explosion est survenue hier mardi lors du passage d'un convoi militaire de la force Barkhane qui avait quitté Gao pour Tessalit. À l'approche de cette ville du nord du pays, l'engin blindé de tête de convoi de plusieurs véhicules saute sur une mine. Le bilan est de un mort sur place et le véhicule fortement endommagé. Deux autres soldats français de Barkhane, grièvement blessés lors de cette attaque, succombent à leurs blessures un peu plus tard, ce qui porte à 17 le nombre de soldats français tués au Mali depuis l'intervention de la France dans le nord du pays pour traquer les islamistes terroristes qui sont chassés des grandes villes mais restent bien présents dans le nord du pays qui deviennent de plus en plus très dangereux dans le placement d'engins explosifs, d'où la nécessité de revoir le système de protection des hommes sur le terrain à travers des moyens de lutte très appropriés. Gao, Boubacar Touré, VOA Afrique.
Au Nigeria, des bergers peuls sont soupçonnés d'avoir tué au moins 15 villageois et brûlé leur maison dans l'état de Taraba, dans l'est du pays. C'était lors d'affrontements à propos de droits de pâturage. Jacques Aristide.
L'information a été communiquée par la police nigériane aujourd'hui, mais l'attaque elle-même a été perpétrée dimanche lorsque des éleveurs peuls ont pris d'assaut les villages de Dori et Mesuma, régis par le gouvernement de Gachaka. 8 personnes ont été tuées à Dori et 7 à Mesuma, d'après le porte-parole de la police, Kwaji Joseph, qui indique que 2 personnes en lien avec les attaques ont été arrêtées par la police déployée dans la région pour contenir les violences. Le calme est désormais revenu dans les 2 villages, dit-il. L'AFP rapporte que les médias locaux ont de leur côté dressé un bilan de 44 morts et de dizaines de maisons rasées. Depuis de nombreuses années, des conflits sur des droits de pâturage opposent les éleveurs peuls, nomades et musulmans, et les cultivateurs chrétiens sédentaires. Des affrontements sont récurrents et ont fait récemment des centaines de morts dans la région d'Agatou, dans l'état du Bénin.
En Guinée-Bissau, l'Assemblée nationale populaire a reporté au 19 avril la session extraordinaire du Parlement convoquée pour ce jeudi par le président José Mario Vache. Plus de détails avec notre correspondant à Bissau, Noah Mankali.
La direction de l'Assemblée nationale populaire, dans un communiqué publié ce mercredi 13 avril, a déclaré que la demande de convoquer la session extraordinaire par le président de la République, José Mario Vaz, devrait avoir lieu 5 jours avant, ce qui n'a pas été le cas. Selon la présidence de l'Assemblée nationale populaire, en faisant allusion à l'application des lois de cette législature en dépit du droit de la convocation d'une session extraordinaire par le chef de l'État, dont l'initiative est prévue dans la Constitution, le mécanisme de son appel passe, nous le citons, par l'initiative à traiter par l'intermédiaire de la demande du président du Parlement qui devrait contenir en particulier les questions à traiter, en particulier son programme de travail tel que déterminé par les doctrines qui soutiennent les normes de la Constitution et les règles de procédure de l'Assemblée nationale populaire. D'ailleurs, une source sous couvert d'anonymat a informé probablement que le gouvernement du PSGC dirigé par Carlos Correa poursuivra à partir du 14 avril, donc demain jeudi. Et le prochain va regrouper le Parti de Rénovation Sociale PRS en opposition, les dissidents du PSGC et des individus connectés avec le président de la République José Mario Vage. Nous avons Kalibissa, VOA Afrique.
Et pour terminer, les violences au Burundi, lettre ouverte d'une soixantaine d'intellectuels de prestigieuses universités africaines, américaines et européennes dénonçant aujourd'hui la chape de plomb qui s'est abattue sur le pays, donnée en exemple hier mais aujourd'hui en crise. Une lettre publiée ce mercredi par le dernier journal indépendant burundais Iwachu. Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet, c'est bien sûr voaafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.